Merci Philippe. Donc j'appelle à la table pour la première table ronde Diane Simieu, directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air au ministère de la Transition écologique, Pierre-Yves Pouliquen, directeur performance plurielle et développement durable de Veolia, Baptiste Perry-Saint-Fabert, directeur général délégué de l'ADEME, Clément Riquet, conseiller municipal délégué de la ville de Toulouse, Isabelle Spiegel, directrice de l'environnement de Vinci, et pour l'animation de cette table ronde, Jean-Baptiste Léger, qui est chef du pôle transition écologique du MEDEF. Bienvenue à tous.
Merci Simon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Jean-Baptiste Léger, je dirige le pôle transition écologique du MEDEF et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde aujourd'hui, pour laquelle je remercie chaleureusement le comité 21 pour son invitation et pour son animation. Merci Simon. Et bien sûr aussi saluer les partenaires qui ont été évoqués tout à l'heure, mais c'est vrai que sans lesquels cet événement n'aurait pas pu être organisé. Alors, on est sur une table ronde qui est intitulée « La nécessaire accélération des acteurs privés et publics des territoires ». Donc nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on accélère. Avant de commencer, une petite page de publicité pour le MEDEF, parce que c'est vrai que sur l'aspect adaptation au changement climatique, on a publié en mai dernier un petit leaflet très très rapide, c'est 5 réflexes pour préparer mon entreprise. C'est vraiment une publication qu'on avait voulu faire pour mettre le pied à l'étrier des entreprises, parce qu'on a vu que le sujet d'adaptation était consensuel, comme il a été évoqué, mais souvent, et trop souvent d'ailleurs, sur les sujets de transition écologique, qu'on ne savait pas par quel bout le prendre. Donc ça fait partie des publications que le MEDEF a mis au débat, mais bien évidemment, cela n'épuise pas le sujet. Et on a autour de nous des grands experts qui ont sans doute beaucoup plus réfléchi et beaucoup mieux réfléchi que nous-mêmes sur cette thématique-là. Donc, en parlant d'experts, je vais commencer par vous, Diane. Vous avez été présentée, vous êtes effectivement directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air au ministère de la Transition écologique, et le PNAC. C'est votre bébé, si je puis dire, longtemps attendu, presque 9 mois finalement entre l'annonce de Christophe Béchu et la mise en concertation. Mais du coup, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter les principaux axes avec un focus donc sur les acteurs privés et voilà, quelles sont les principales lignes directrices que vous souhaiteriez mettre au débat aujourd'hui?
Merci beaucoup pour votre invitation. Je voudrais revenir un instant sur la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique dont M. le sénateur a parlé tout à l'heure, parce que c'est vrai que maintenant elle fait peu débat, mais quand Christophe Béchu l'a présentée il y a un an et demi à peu près, au départ il y a eu quand même quelques réactions qui étaient très vives. Des réactions qui étaient « si vous vous préparez à 4 degrés, c'est que vous abandonnez l'accord de Paris ». Alors, je reviens, je pensais que c'était derrière nous, mais lors de l'audition de la ministre, ici même, par vos collègues, on a eu quand même des questions un peu surprenantes de la part de certains sénateurs. Donc, je me permets d'insister un moment là-dessus. Évidemment, c'est pas parce qu'on se prépare à 4 degrés qu'on renonce à l'accord de Paris et qu'on renonce à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. J'en veux pour preuve qu'en 2023, on a réduit les émissions françaises de 5,8%. Et donc, on est sur la bonne trajectoire aujourd'hui pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc, c'est pas moi seulement qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat. On sait que ça va être de plus en plus difficile de tenir ce rythme de réduction, mais c'est quand même encourageant, parce que nous aussi parfois on a l'impression d'être un peu Sisyphe, et donc c'est important de se rappeler que on a des avancées et que c'est possible. Pour en revenir à cette trajectoire de 4 degrés, qu'est-ce que ça veut dire concrètement plus 4 degrés? Si on parle en analogue climatique, ça veut dire qu'on aurait le climat de Séville à Marseille, qu'on aurait le climat de Valence, et on voit ce que ça donne à Toulouse, et de Montpellier à Paris. Évidemment, tout ça ne reflète pas toutes les conséquences, mais ça vous donne une idée de ce que ça représente. Et tout ça a un coût économique qui est certain, puisqu'on estime que c'est 10 points de PIB qui pourraient être perdus à l'horizon 2100 pour cette trajectoire de réchauffement. Alors, c'est pour ça que Il faut qu'on s'y prépare. C'est notre responsabilité. Et donc cet objectif du troisième plan national d'adaptation au changement climatique, c'est de planifier les actions à mener d'ici 2030, celles qu'il faut qu'on mène à court terme, celles qu'il faut qu'on mène à moyen terme, celles qu'il faut qu'on mène à plus long terme, pour se préparer au réchauffement attendu d'ici 2100, en systématisant la prise en compte du climat futur dans toutes les décisions, et notamment dans toutes les décisions d'investissement. Les nôtres, celles de l'État, celles des collectivités, celles des entreprises, celles des citoyens, de tout le monde. Qu'on ait vraiment cette prise en compte systématique du changement climatique. Et donc pour ça, le projet de PNAC, comme on l'appelle, comme nous on appelle notre bébé, il comporte 51 mesures qui se déclinent en 200 actions. Donc il y a 5 axes. Le premier axe, vous avez été tous les deux, monsieur le sénateur et puis monsieur le président, à le dire, le premier axe, c'est protéger les Français. C'est le plus important. Le deuxième, c'est assurer la résilience des territoires. On l'a dit, les collectivités territoriales sont vraiment en première ligne face aux impacts du changement climatique. Donc c'est assurer la résilience des territoires, des infrastructures et des services essentiels. Le troisième, c'est la résilience économique, et notamment la souveraineté alimentaire, énergétique et économique de notre pays. Le quatrième, c'est protéger notre patrimoine naturel, parce qu'on sait que la biodiversité souffre du réchauffement climatique, c'est aussi fait partie de la solution. Et puis le cinquième, c'est mobiliser les forces vives de la nation pour réussir notre préparation à s'adapter. Et ça, c'est un point qui est vraiment très important, parce que vous l'avez dit, c'est le troisième PNAC. Il y en a eu deux avant. Le deuxième, c'était il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, à part monsieur le sénateur, le comité 21, et puis j'exagère un peu, quelques autres, ça ne mobilisait pas les foules. Bon, notamment, côté MEDEF, ça mobilisait assez peu à l'époque. Hein. Je me souviens, j'étais à Matignon à ce moment-là quand on avait... Voilà. Et là, on voit qu'il y a quand même une évolution. Symboliquement, le PNAC, il a été présenté par le Premier ministre. C'est assez fort dans le sens où c'est pas un objet du ministère de la Transition écologique. Ça, vraiment, ça mobilise tous les ministères. Tout ce qui a été présenté a été âprement discuté. Je peux vous dire que les discussions sont beaucoup plus dures au niveau interministériel qu'il y a 5 ans. C'était beaucoup plus facile. Il y a 5 ans, il y avait moins de monde qui s'y intéressait. Donc maintenant, il n'y a plus de monde qui s'y intéresse. Les discussions sont plus dures, mais ça implique davantage. Les gens sont davantage tenus par ce qui est décidé. Et puis, on voit que les entreprises ont pris conscience de l'urgence. La mobilisation du MEDEF, Jean-Baptiste en a parlé, ce qui a été publié. Je pense que c'est vraiment révélateur de cette prise de conscience qu'il y a eu. Donc maintenant, il faut qu'on passe de la prise de conscience à l'action concrète dans la stratégie, dans les décisions qui sont prises par les entreprises, à la fois pour mieux gérer les crises climatiques, pour mieux gérer les chaînes d'approvisionnement, et puis parfois pour saisir les opportunités économiques qui peuvent en découler. Et ça, c'est vraiment un élément important, parce que de même qu'il y a une diversité de collectivités qui ne vont pas être exposées de la même manière. Dans les entreprises, la diversité est encore plus grande. Et en fonction des secteurs, en fonction des tailles, elles ne vont pas être affectées de la même manière. Mais une chose dont on est sûr, c'est qu'elles vont toutes être affectées. Et qu'on ne peut pas avoir les mêmes stratégies pour les grandes que pour les petites. Pour les grandes, c'est une démarche obligatoire qu'on leur demande dans le cadre de la CSRD. C'est aussi une obligation que leur ont fait les ministres Christophe Béchu et Bruno Le Maire en février dernier, qui ont demandé aux grandes entreprises des secteurs de l'énergie et des transports de remettre une étude de vulnérabilité et un plan d'adaptation d'ici la fin de l'année 2025. En 2026, cette démarche sera étendue aux opérateurs d'intérêt d'importance vitale. Pour les petites, c'est une approche différente. C'est plutôt une démarche d'accompagnement qu'il faut. Il y a un certain nombre de guides sectoriels qui sont en cours d'élaboration déjà, parce que les enjeux sont très différents. Et puis un enjeu d'accompagnement. Il y a un enjeu à accompagner les PME qui souvent ont pris conscience, mais ne savent pas par où commencer. Et ça, c'est l'objet, et je pense que Baptiste en parlera tout à l'heure, du diag adaptation. C'est dès aujourd'hui, les entreprises peuvent solliciter ce diag adaptation qui a été élaboré par l'ADEME et qui va être déployé par BPI pour se lancer dans leur démarche d'adaptation. Pour les entreprises, on a aussi un enjeu important qui est de faire en sorte que les aides que l'État verse aux entreprises prennent systématiquement en compte les enjeux d'adaptation. Je vous donne un exemple. C'est quand on prend en charge les effets du changement climatique sur les entreprises en activité partielle, il faut que ce soit conditionné à la prise en compte d'engagements complémentaires, notamment en ce qui concerne l'adaptation des locaux et de l'outil de travail. Donc voilà un peu pour les grands axes du FNAC.
Merci beaucoup Diane. Alors vous parliez justement d'action, il me semble que agir pour la transition c'est la raison d'être du MEDEF si je ne m'abuse. En tout cas Baptiste, la parole est à vous pour présenter les actions de l'ADEME en matière d'adaptation au changement climatique en particulier.
Merci Jean-Baptiste. Alors nous notre action à l'ADEME, elle est par construction alignée avec le PNAC. On est opérateur de l'État et donc on va déployer la stratégie qui a été énoncée par Diane avec peut-être trois axes. D'abord, on n'est plus dans le moment de la philosophie, comme on l'a dit, des grands principes, mais vraiment le passage aux travaux pratiques. Et pour passer aux travaux pratiques, on a besoin d'accompagnement et d'outils. Et ça, je pourrais préciser en fait le type d'outils qu'on va déployer à l'ADEME pour accompagner les collectivités et les entreprises. Il y a la pensée en trajectoire. J'insiste un peu, ça a été dit par tout le monde, mais c'est essentiel. Il n'y a pas d'adaptation tant qu'il n'y a pas de trajectoire. Ça, c'était la base de notre théorie du changement sur l'adaptation à l'ADEME. Et on a enfin la traque qui va vraiment nous permettre de caler tous les acteurs sur cette traque 4 degrés. Et puis, troisième élément, c'est agir en collectif. On ne va pas aller s'adapter chacun dans son coin. On ne va pas adapter une entreprise de façon isolée. Il y aura forcément besoin de partenariats, de collaboration public-privé avec les territoires en particulier. Donc ça, c'est les trois grands axes. Et puis ensuite, dans la déclinaison du PNAC, nous, on va être mobilisés à la fois sur la mission adaptation dont il a déjà question, et j'y reviendrai peut-être dans le deuxième tour des questions. On va être mobilisés aussi sur l'adaptation des bâtiments, où avec tous les sujets du confort d'été, évidemment, aussi les sujets de réseau de froid, qui était un peu un tabou. Nous, on s'occupe de la chaleur renouvelable. À l'ADEME, on a un fonds qui est dédié. Et jusqu'à présent, on ne pouvait pas ouvrir ce fonds aux enjeux de froid renouvelable. Et on voit bien que là, il ne faut pas que tout le monde s'équipe de climatisation de mauvaise qualité. Il faut là aussi qu'on s'en occupe de façon collective. C'est de nouvelles infrastructures énergétiques à construire. Et puis, peut-être plus important, dans ce qu'on va faire à l'ADEME, c'est l'accompagnement des acteurs économiques. Alors depuis 2019, nous, on a une direction d'adaptation et on a publié beaucoup de littérature, des guides, etc. Mais maintenant, au-delà des guides, c'est vraiment des outils très opérationnels qu'on est en train de déployer. D'abord avec les agriculteurs. Alors on a un fonds qui est donc piloté par le ministère de l'Agriculture. Et depuis l'année dernière, on déploie des diagnostics de résilience, d'adaptation pour les exploitations agricoles. Et c'est parmi les premiers acteurs économiques qui vont être touchés. On a, Diane l'a déjà mentionné, développé des diag adaptation. Alors il y avait des diag très sophistiqués qu'on avait développés donc avec Carbone 4 pour les grandes entreprises. C'est une approche qui s'appelle OCARA et on l'a décliné pour les PME, ETI, avec donc BPI France qui va déployer ces diagnostics à grande échelle et qui va permettre aux entreprises justement de savoir par quel bout commencer sur ce sujet de l'adaptation. Et puis on a aussi une méthodologie phare à l'ADEME qui est plutôt pour accompagner les entreprises dans leur plan de transition en termes d'atténuation du changement climatique. C'est la méthodologie ACT. Et on a déployé en fait là un module adaptation lié à la méthodologie ACT. Et on est en train de former des bureaux d'études, des cabinets de conseil qui vont pouvoir accompagner les entreprises avec du ACT adaptation. Donc voilà, en gros, toutes les briques aujourd'hui sont disponibles. Maintenant, il faut qu'on déploie, il faut qu'on forme aussi à grande échelle. Ça, c'est aussi un message très fort de l'ADEME. On a un vrai besoin de monter en compétence des acteurs pour que finalement ce soit intégré dans tous les dispositifs, à la fois les dispositifs publics, mais aussi les choix d'investissement, et pour qu'on crée une sorte de réflexe adaptation dans nos prises de décision. Et donc, c'est comme le sénateur Dantec disait au départ, c'est quand on ne le verra plus, en fait, finalement, il faut que ce soit complètement intégré. Donc, ça sera peut-être moins spectaculaire que des photos de feux de forêt, mais il faut vraiment qu'on crée ce réflexe adaptation si on veut généraliser et puis surtout, à tout prix, éviter la maladaptation dont on pourrait se mordre les doigts dans quelques années.
Merci beaucoup, Baptiste. Vous parliez effectivement de mise en place des travaux pratiques. Alors, la transition, excusez-moi, est un peu facile avec Vinci. Isabelle Spiegel, vous êtes directrice de l'environnement de Vinci. Mais au-delà de votre périmètre d'entreprise, vous êtes aussi une entreprise qui a beaucoup d'ancienneté, si je puis dire, sur la question de l'adaptation. Donc, voilà, quelles sont aujourd'hui les problématiques du secteur de votre entreprise et quelles solutions est-ce que vous mettez en place pour les infrastructures d'aujourd'hui et de demain, surtout ?
Merci beaucoup déjà pour l'invitation et ce colloque qu'on a monté en y réfléchissant depuis un certain temps. Alors, je peux d'autant plus parler de Vinci qui s'est posé ces questions sur la résilience au départ, puis l'adaptation au changement climatique depuis un certain temps, puisque j'étais pas encore dans le groupe. Quand en 2017, il y avait un premier groupe de travail sur la question de la résilience climatique. C'est relativement logique. Les infrastructures, elles sont touchées de plein fouet par les aléas climatiques. Donc, on s'est pris un typhon sur un aéroport au Japon en 2018, qui a bien sûr bloqué l'aéroport, puisque c'est un aéroport, mais sur lequel, surtout, on s'est dit, en fait, toutes les sous-stations et le système électrique est en sous-sol. Donc, en fait, le temps de retour à la normale a été plus long que si on avait pensé la conception différemment. Et puis, je dirais qu'on a tous des aléas plus ou moins forts et marquants. Septembre 2022, sur la 9 du côté de Nice, on a dû sortir des usagers de leur voiture par hélicoptère à cause d'inondations, en fait. Voilà. Donc, ça amène en fait tout un tas de raisonnements qui fait dire, voilà, l'infrastructure, on est au centre effectivement de ceux qui subissent les problèmes. En même temps, ce serait trop facile de se dire, dans les TP et dans la construction, c'est des opportunités pour nous de réparer une fois que les aléas ont lieu. Et donc, comment anticiper tout ça et apporter effectivement notre pierre à l'édifice, de la même manière qu'on le fait sur les questions d'adaptation ou les autres enjeux en fait environnementaux, en disant, et c'est vraiment ce qu'a fait la FNTP, par exemple, Fédération Nationale des Travaux Publics, pardon, en lançant un programme Acteurs pour la Planète, en disant, voilà, il y a une partie des solutions qui sont entre nos mains, et donc il faut les faire connaître si on veut effectivement les déployer. Alors, j'ai envie de reprendre un petit peu le canevas de réflexion qu'a lancé le MEDEF, parce que ça commence par comprendre. Alors, je vais mettre un peu ensemble comprendre et former. Nous, on a commencé en interne par se dire, effectivement, il faut déjà que nos collaborateurs soient capables de comprendre de quoi on parle d'avoir un moyen de porter à connaissance en fait l'enjeu, le risque climatique. Donc on a développé un outil en interne de premier niveau d'évaluation en fait. Alors d'abord de la vulnérabilité en fait des ouvrages, mais de la criticité des ouvrages, et de se dire vraiment voilà, par rapport à l'exposition géographique et tel aléa, si je suis en train de construire un tunnel, un pont, une sous-station en sous-sol électrique, etc., quelle est la criticité de mon ouvrage par rapport à ça. Premier niveau de déjà comprendre et former nos collaborateurs. Aujourd'hui, on a formé à peu près 200 plutôt sachants, à un niveau un peu expert pour savoir manipuler ces choses-là. C'est très faible par rapport à l'ensemble des collaborateurs du groupe. On est 280 000. Mais par contre, ça commence par là. C'est ensuite de se dire analysons. Donc cet outil-là et d'autres nous permettent de dire chez nous dans un métier déjà de concession, donc quand on opère une autoroute, un aéroport, on le fait pour des décennies, donc quelque part le risque, on le prend dans le risque des aléas climatiques, on le prend dans le package en fait de l'opérateur exploitant d'une concession de transport, mais c'est aussi tout un tas de solutions qu'on va pouvoir vendre ou en tout cas encourager notre client à regarder sur le correct dimensionnement des infrastructures, etc., quand on est dans un rôle plutôt de constructeur. Et donc, à partir de là, on a dit on peut avoir un catalogue de solutions. Donc, on en a lancé un début juillet à se dire il y a 80 solutions un peu pragmatiques pour se dire comment apporter aussi des solutions concrètes qu'on partage. C'est pas du tout lié à Vinci spécifiquement, mais c'est dans notre secteur. Qu'est-ce que notre maillon de la chaîne de valeur finalement peut apporter? J'ai envie d'en citer quelques-unes parce qu'il y a des outils de diagnostic. Donc, effectivement, avoir le bon dimensionnement du risque, des enjeux enjeux de la criticité, c'est par là que ça démarre. C'est ensuite lutter sur des solutions de prévention de type, par exemple, îlot de fraîcheur. Donc quand le PNAC mentionne le plan Marshall sur la renaturation en ville, bah, on dit oui à fond, parce qu'en fait, nous, c'est une des évolutions d'une partie des métiers, historiquement de la route ou de l'aménagement urbain, mais plutôt minéral, de se dire bah, on va déminéraliser, remettre de la terre végétale, planter, travailler la couleur du sol et aménager les réseaux d'eau pour être capable bah, d'alimenter les végétaux en eau un maximum, hein, voire de réinfiltrer directement. Donc c'est des nouveaux métiers sur lesquels nos secteurs travaillent. C'est bien évidemment tout ce qui est correct dimensionnement, mais dimensionnement qui n'est pas que sur la structure physique, qui va être aussi sur l'usage. Et c'est là, par contre, on ne peut plus raisonner tout seul côté privé dans notre coin. Quand on est, par exemple, opérateur de résidences gérées dans le domaine de l'immobilier, de plus en plus, vous avez des résidences pour seniors, des résidences pour étudiants, où on va aller sur la notion de partage en fait, de services, à se dire, voilà, on mutualise un certain nombre de services. Ça marche très bien sur le côté de décarbonation, moins de mètres carrés pour un certain nombre d'occupants. Mais sur la question du confort d'été qu'on vient de mentionner, par exemple, est-ce que ça peut aller jusqu'à dire je rafraîchis uniquement les chambres, mais j'ai une pièce qui est peut-être un peu plus fraîche, commune, sur laquelle eh ben, la population peut venir X heures par jour. Voilà. Donc là, je vais quelque part, c'est une notion d'usage différencié sur lequel, bien évidemment, on ne peut pas, nous, tout seuls, définir quel est le bon niveau pour un habitant, un occupant dans son logement, par exemple. Et puis, bien évidemment, c'est toutes les solutions derrière de réparation, retour à la normale le plus vite possible. Donc, c'est partie des définitions aussi, de se dire, voilà, comment, en situation de crise aussi, revenir le plus vite possible. Et là encore, avec cette notion d'usage fondamentaux au centre, et donc sur lequel on est obligé de réfléchir public-privé tous ensemble.
Parfait, merci beaucoup Isabelle. Alors public-privé, ça nous amène effectivement aux collectivités. Donc Clément Riquet, vous êtes conseiller municipal délégué de la ville de Toulouse, maire de quartier, ce que vous me disiez, et particulièrement en charge du plan Toulouse plus fraîche. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ce plan, ainsi finalement aussi que la manière dont vous travaillez avec les entreprises dans le cadre des partenariats ou des appels d'offres en particulier? Merci.
Merci. Monsieur le sénateur le rappelait tout à l'heure, les collectivités sont bien engagées en matière d'atténuation avec les plans climat et énergie territoriale, mais nous avons aussi des actions d'adaptation. Nous sommes bien sûr en première ligne. Et nous avions le plan 100 000 arbres, dont je dirai quelques mots tout à l'heure, qui a été lancé à partir de 2019. Et après l'été caniculaire que nous avons tous vécu en 2022, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a souhaité que la ville se dote d'un plan de rafraîchissement qu'on appelle Toulouse plus fraîche, et qui consiste simplement à mettre les moyens de la collectivité en phase, à l'unisson, pour apporter des réponses. Et donc ça, c'est un plan qui se décline en une trentaine d'actions et qui s'inscrit dans la durée jusqu'en 2030. Et donc nous avons, comme vous pouvez l'imaginer, un chef de projet, des groupes de travail, des partenaires publics comme l'ADEME ou des partenaires privés également. Et ces activités, finalement, ces projets peuvent se découper en plusieurs thématiques. Donc bien sûr, tout ce qu'on peut faire sur l'espace public, comme vous l'imaginez, ça a été dit aussi par madame juste un instant. Les plantations d'arbres, c'est impératif dans une ville. La désimperméabilisation des sols. À Toulouse, nous avons désimperméabilisons entre 3 et 5 hectares chaque année. Des ombrières aussi, à certains endroits où on ne peut pas planter d'arbres. Donc ça peut être intéressant pour répondre aux demandes des habitants. Et puis, nous avons une doctrine voirie, c'est-à-dire, comme on le sait, le goudron attire la chaleur et la restitue. Donc, à l'échelle de la métropole, nous éclaircissons effectivement cette voirie et nous la grenaillons, comme on dit dans ce langage technique, pour faire en sorte qu'il accumule moins la chaleur. Donc, voilà pour l'espace public. Ensuite, sur l'espace bâti, là encore, les solutions, nous les connaissions depuis des temps ancestraux. On sait bien que l'arbre crée de la chaleur. On sait bien que des peintures en blanc créent de la chaleur également. Donc quand on peint une toiture en blanc de 500 mètres carrés sur un bâtiment, à condition qu'il ne soit pas trop près d'ailleurs de monuments historiques, auquel cas l'architecte des bâtiments de France émettrait quelques réserves, eh bien, ça va permettre de rafraîchir effectivement le bâtiment, ou si le bâtiment est déjà rafraîchi par une climatisation, de moins consommer d'énergie. Donc, c'est de toute façon intéressant. Nous avons 210 écoles à Toulouse et on ne peut pas toutes les équiper de climatisation. Ça ne nous semble pas pertinent. En revanche, des brasseurs d'air dans chacune des classes, ça, c'est réalisable et ce sera fait d'ailleurs d'ici 2026. On expérimente aussi dans le cadre de ce plan de rafraîchissement. L'expérimentation, c'est quelque chose qui nous paraît important avec cette approche scientifique. On expérimente le rafraîchissement adiabatique, par exemple, qui est peut-être pas très connu, mais qui nous semble quand même intéressant. Et puis, bien sûr, dans le cadre du plan local d'urbanisme, qu'on appelle le PLUIH à Toulouse, faire en sorte que tout ce qui sera construit demain soit pleinement compatible avec nos objectifs de rafraîchissement, c'est-à-dire, là aussi, des façades et des toitures un petit peu plus claires, un coefficient de pleine terre, des pares soleil côté sud, et ainsi de suite. Et ensuite, ce plan de rafraîchissement, c'est aussi des services. Des services que vous connaissez ici à Paris et ailleurs, comme Toulouse Plage, avec des jeux pour permettre que les familles se rafraîchissent, avec des cartographies de lieux de fraîcheur également. Donc ça, c'est typiquement les piscines, les lieux de culture, les espaces verts, dont on augmente les horaires d'ouverture pendant période de canicule. Et puis, des dispositifs tels que Allo Senior pour que les personnes qui sont seniors un petit peu isolées puissent recevoir un coup de fil et qu'on s'assure que tout va bien pour elles en période de canicule. Et donc nous nous appuyons aussi sur un aspect participatif, savoir est-ce que les Toulousains comprennent ce que nous mettons en place, est-ce qu'ils sont en phase avec ça, et aussi est-ce qu'ils souhaitent de nouveaux services, et si oui lesquels. Et ensuite, alors nous travaillons avec les entreprises. En tout cas, ça me fait penser au défi Toulouse plus verte que nous avons dans le cadre de notre plan 100 000 arbres, qui met en valeur les plantations d'arbres qui sont faites sur l'espace privé des entreprises, sur leur propre foncier.
Merci beaucoup Clément. Donc effectivement, Toulouse, la ville rose, un peu plus verte, un peu plus blanche, un peu moins noire sur les revêtements. Donc on voit effectivement que les couleurs évoluent avec l'évolution du climat. Peut-être pour revenir aux entreprises, donc Pierre-Yves Pouliquen, vous êtes directeur de la performance plurielle et développement durable de Veolia. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques lignes l'action de votre entreprise et la manière dont vous travaillez avec les collectivités territoriales ?
Merci pour l'invitation, merci pour les mots d'introduction du président et du sénateur Dantec. L'adaptation, c'est quelque chose qu'on prend historiquement très au sérieux. Pourquoi ? Parce que 80% des impacts de l'adaptation vont se traduire sur un impact sur l'eau. Trop d'eau, pas assez d'eau, mauvais moment, mauvais endroit. Et il ne vous a pas échappé que Veolia, dans ses cœurs de métier historique, est sur l'eau depuis 170 ans. Donc, en fait, on a cette responsabilité-là, on a cette culture-là, on a une culture de résilience, de réactivité en cas de crise. Mais là, on voit bien qu'on doit changer de paradigme. Et c'est tout ce travail de fond qu'on fait avec les équipes. Alors on a la chance, le groupe Veolia, c'est 54 pays, c'est une couverture mondiale et une expérience absolument incroyable. Et donc on a aussi une responsabilité de ce qu'on appelle le copy and adapt et de voir un petit peu comment on va gérer ça. Donc il y a eu un côté un peu systémique, c'est comment on analyse une cartographie de 2000 sites dits prioritaires clés. Par rapport à des modèles que nous fournissent l'ADEME, des modèles que nous fournissent Carbone 4, enfin voilà. Et puis on en tire en fait 10 BU prioritaires avec des choses qui sont parfois un peu contre-intuitives. Quand j'étais à Dubaï pour la COP29 et que j'ai vu mes équipes, je leur ai dit « Votre principal risque, c'est l'inondation ». Alors là, ils ont bien rigolé. Hein. Mais 2 mois après, ils ont moins rigolé. Parce que la ville, elle n'a pas été conçue pour inondation. Et moi, dans mon expérience professionnelle, j'avais répondu à un appel d'offres au Qatar, qui était terrorisé par ces inondations qu'ils ont régulièrement pour la Coupe du Monde. Et donc le Qatar a un peu d'argent, comme vous savez. Et ils avaient mis énormément de moyens pour se préparer, en cas d'événement pendant la Coupe du Monde, avec la médicalisation que vous pouvez imaginer, à ça. Donc c'est quelque chose qu'on voit. Et en fait, il y a là, derrière la question de l'adaptation, beaucoup de choses qui sont contre-intuitives. Et ça, c'est un premier combat dans nos équipes. Donc il faut amener la science au cœur des équipes, auprès de gens qui savent, parce que ces gens ont une expérience, mais leur dire les choses changent. Et elles vont changer à un pas de temps qui, lui, n'est pas complètement défini. C'est-à-dire que la science n'est pas complètement stabilisée autour de ces questions-là. Et on ne peut pas dire que c'est la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 5 ans ou dans 10 ans. ou 20 ans. Et ça, c'est très compliqué à aborder dans des logiques d'entreprise où vous avez, comme tout le monde, la contrainte du court terme, du moyen terme, ça a été évoqué en tant que tel. Donc c'est important de modéliser la science. Donc nous, on en atterrit une méthode où on dit, on prend 10 BU géographiques prioritaires. Donc on va dire, par exemple, la Colombie est sortie. Et la Colombie, on a décidé de dire à Carthagène, voilà, magnifique endroit, Carthagène. Et ben, en fait, vous allez être confronté à des aléas climatiques un peu différents de ceux de Dubaï ou ceux du sud de la France. Mais par contre, il faut que vous occupiez du sujet pour la collecte des déchets ménagers qu'on fait à Carthagène. Et donc, on a une approche croisée, c'est-à-dire on voudrait avoir les 10 BU géographiques avec un pilote et qui permettent aussi au groupe de travailler sur les 10 métiers du groupe, ce qu'on appelle les segments chez nous, pour pouvoir avoir une palette d'outils qui soit utile, la méthode Ocara que vous avez. Donc là, on est dans du lourd, ça demande un investissement. On est là pour aider, nous, en support corporate. Aider, bien sûr, il faut que les BU nous mettent le directeur du site, enfin un peu d'intelligence locale, et croiser ça pour qu'on ait une boîte à outils qui soit duplicable. Et puis après, on va avoir un deuxième temps qui est de partager auprès de nos 220 000 collègues que ce sujet-là, il va falloir l'embarquer. Et que ça va prendre du temps. Alors, il y a des opportunités. C'est vrai que commercialement, on a un rôle, nous, sur le territoire. Veolia est ancré dans un territoire. Ça ne veut rien dire, Veolia, si on n'associe pas historiquement la notion de territoire. Donc, ça a été évoqué par le sénateur et par le président. Voilà. Donc, le territoire, c'est au cœur de notre ADN. Et là, on commence à réconcilier, je dirais, la culture historique de Veolia avec les nouveaux enjeux. Et on approche cette question-là. Et puis, l'appel d'offres, on est à des différents modèles. Donc, il y a des modèles où on est en charge de faire ces travaux-là, et puis il y a des modèles où c'est pour le compte de la collectivité, et donc il faut que la collectivité le prévoie dans son appel d'offres. Je me retourne vers monsieur le maire. Et ça, c'est un autre débat. Mais en France, on a la chance, par exemple, de dire, moi je leur ai dit à mes collègues, mais en France, vous avez une boîte à outils incroyable. Vous avez les agences de l'eau qui ont fait des rapports, vous avez l'ADEME qui fait des rapports, vous avez le CEREMA qui fait des rapports, vous avez des plans d'adaptation territoriaux. Enfin, si vous faites votre boulot correctement, vous n'avez pas besoin de m'appeler. Hein. Vous avez déjà toute la donnée locale, à vous de la mettre en perspective par rapport à vos clients, parce que votre boulot de Veolia, c'est d'éclairer le client, c'est de l'accompagner. Et puis le client, il choisira ce qu'il veut prendre ou pas, c'est son choix politique, et c'est sa priorité financière et ce genre de choses. Mais on a la chance d'être dans un pays où il y a quand même une boîte à outils, une prise de conscience depuis quelques années. Et alors là, je remercie le ministre Béchu parce qu'il a mis effectivement un vrai pavé dans la mare. Et nous, on dit, l'atténuation, on a nos engagements SBTI 1.5, on a notre plan de trajectoire d'atténuation qui a été revu par Moody's, on va faire notre part. Mais l'atténuation, c'est global, c'est mondial, c'est de la solidarité. C'est l'exemplarité. L'adaptation, c'est local. C'est maintenant, demain, on ne sait pas très bien, mais ça va se passer. Et les drames, ils arrivent. Nous, on a été touchés par Dubaï, on a été touchés par l'Europe de l'Est et les inondations d'Europe de l'Est. On a été touchés par Valence. On a été touchés par la sécheresse il y a 2 ans. Mais la sécheresse, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir les élus. Le gouvernement a dit, il y a des solutions. L'histoire du blocage administratif sur les eaux usées en France, culturellement, je pense que depuis 2 ans, on a quand même énormément progressé grâce à l'appui de l'administration, la prise de conscience de tout le monde, de dire on a de l'eau qui, dans certains territoires, est gâchée parce qu'elle part directement à la mer. Il faut trouver le bon endroit pour le faire. Il y a des tas d'idées. Voilà, il ne faut pas faire du reuse d'eau usée n'importe où, n'importe comment. Mais ça reste quand même une des palettes à outils. Et nos collègues en charge du marketing et autres, ils avaient développé une boîte à outils. Voilà. Donc on a tout ce process qui est très intéressant. Nous, on est en corporate, on est là pour structurer la démarche, pour répondre aux obligations réglementaires que le ministre va nous mettre demain et aujourd'hui. La CSRD va nous obliger à reporter. Les assurances commencent à nous poser des questions. Et puis on aura les plans de vulnérabilité à finaliser. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est à nous de l'animer, parce qu'il est évident qu'on doit être prêt par rapport aux échéances que le gouvernement nous donne. Mais c'est très variable selon les pays. C'est très variable. L'Angleterre a déjà une politique autour de l'adaptation qui est assez avancée. D'autres pays ne l'ont pas du tout. Et nous, je dirais en dernier exemple, on a fait quelque chose de très intéressant. Quand j'ai échangé avec ma collègue en charge de la santé et sécurité pour le groupe, on a décidé de prendre ce sujet et on a travaillé pour dire qu'est-ce que ça veut dire pour nos collaborateurs ces questions de vagues de chaleur et d'adaptation. Et donc pendant 1 an, on a fait des groupes de travail, on a pris des contrats pilotes, on a regardé, et tout le réseau santé-sécurité du groupe a été formé en webinaire et autres pour dire cette question de la chaleur, vous allez être confronté. Alors effectivement, nous on a la chance d'avoir des collaborateurs au Maroc qui peuvent expliquer comment ils ont déjà intégré cette question des vagues de chaleur par rapport à des collègues français. Donc il y a du partage d'expérience. Et puis il faut aussi faire comprendre à nos collègues marocains que le problème, c'est qu'ils vont changer de paradigme. Parce que, voilà, nous, ça a été dit, Valence remonte, je ne sais plus où, là, à Toulouse. Et je ne souhaite pas à Toulouse de vivre ce que a vécu Valence, parce que c'est franchement l'horreur. Nous, on s'occupait de la banlieue de Valence en termes de traitement d'eau. Il n'y a plus d'usine. Il faut juste savoir que les usines ont été rasées. Donc le problème, il va durer. Hein. On n'est pas dans le cœur de ville, mais la banlieue est rasée. Voilà. Donc il n'y a plus de traitement d'eau. Hein. Dans la banlieue de Valence. Bon, donc il faut juste réaliser ce qui peut arriver. Et voilà. Et après, ça reste une complexité. Mais sur la santé et sécurité, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. On a aidé nos équipes à modéliser le truc. Parce que c'était une manière, et ça a été dit à plusieurs moments, en fait, il faut qu'on embarque. Il faut qu'on embarque la transformation auprès de 220 000 collaborateurs, de 4 dirigeants qui ont 40 injonctions paradoxales par semaine. Donc c'est compliqué. Et notre rôle, c'est de leur donner une boîte à outils, de les aider, d'aider nos clients à réfléchir avec nous, et puis petit à petit d'entamer cette transformation. Mais merci aux politiques d'avoir donné un signal très clair, une boîte à outils. Et puis en France, puisqu'on est quand même au Sénat, on a une chance incroyable d'avoir un paquet de sociétés, d'entreprises, parapubliques, d'établissements, je ne sais pas exactement quel est le terme que vous avez, mais on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Et nous, on a travaillé avec le CEREMA à un pré-diagnostic, donc le Hauts-France et le CEREMA peuvent aider une collectivité à commencer à poser l'équation. Voilà, donc on avait. Après, il faut rentrer dans le détail. Donc là, il y a plutôt au CARA quand vous êtes une grande boîte ou les outils de l'ADEME quand vous êtes une petite PME. Et puis après, vous avez le plan d'action, court terme, moyen terme. Et puis vous avez les collaborateurs, ça a été dit par Vinci ou par le ministère. Enfin, il faut protéger les collègues d'abord. Mais après, nous, on est service essentiel. Une collecte de déchets, traitement d'eau, les livrer de l'eau potable, on sait tous que c'est du service essentiel. Donc on y travaille. Ça va être un long chemin. Voilà.
Merci beaucoup et je prends ma casquette d'organisation patronale. Je vous confirme que le sujet de la santé sécurité est pleinement identifié dans la question de l'adaptation. On y travaille d'ailleurs aussi avec la commission spécialisée du CNTE et les organisations syndicales et les autres organisations patronales. Alors peut-être restons encore à l'échelle territoriale avec cette boîte à outils que vous évoquiez, Monsieur Pouliquen, et donc avec l'ADEME et le CEREMA en particulier, vous venez de sortir un nouveau livrable, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Baptiste.
Alors oui, c'est ce qu'on appelle la mission adaptation qui a été annoncée par la ministre Agnès Pannier-Runacher au Salon des maires la semaine dernière. Donc c'est pas simplement l'ADEME-CEREMA, hein, c'est en fait l'ensemble des opérateurs de l'État qui, depuis plusieurs années en fait, étaient interpellés par les collectivités avec lesquelles ils avaient affaire. Et pour répondre aux besoins, chacun un peu dans son coin avait, alors c'est une richesse, hein, vous l'avez dit, chacun avait fait ses rapports, avait fait ses méthodologies, mais ça pouvait aussi créer une forme un peu d'illisibilité dans l'action de l'État en matière d'adaptation. Et donc là, l'idée, c'est de créer une forme de guichet unique pour à la fois recevoir les besoins des collectivités et puis pour les aiguiller vers les dispositifs qui sont opérés par les différents opérateurs. Alors, ces opérateurs, c'est donc CEREMA ADEME, on est le tandem leader, mais c'est aussi les agences de l'eau qui ont de nombreux dispositifs sur l'adaptation. C'est Météo France, bien sûr, c'est l'OFB. Et c'est aussi l'ANAP, l'Agence nationale de l'appui à la performance des établissements de santé. La ministre a souhaité aussi relier cet établissement public, puisqu'il y a plein d'enjeux d'adaptation dans les établissements de santé. Et donc là, avec le CEREMA, en fait, on a identifié dans nos directions régionales une trentaine de référents qui vont créer en fait ce guichet qui va recevoir les demandes des collectivités. Alors soit les collectivités viendront nous voir directement, soit ça passera par le préfet de département. Et nous ensuite, on va faire la guerre de triage pour les rediriger vers les différents dispositifs. Avec l'idée aussi d'utiliser une seule méthodologie dans toute la sphère de l'État. Donc il y aura une approche globale qui est celle qui a été développée par l'ADEME qui s'appelle TACT, pour trajectoire d'adaptation au changement climatique, et qui permet vraiment de faire du diagnostic jusqu'aux actions et puis à la mesure du progrès, et qui va aux différentes étapes de cette trajectoire orienter la collectivité vers les outils qui ont été développés par le CEREMA, par les agences de l'eau, par Météo France, etc. Donc on y aura un besoin pour rafraîchir sa ville, par exemple, hop, on ira voir le service que l'ADEME a pu développer, Plus fraîche ma ville. Quand il y aura des sujets sur les infrastructures, l'adaptation des infrastructures, ce sera plutôt le CEREMA qui a, lui, de nombreuses méthodologies sur le sujet. Donc là, on a essayé, à travers cette mission, de créer un dispositif beaucoup plus simple pour les collectivités, où finalement, c'est les opérateurs de l'État qui vont internaliser la complexité, et pour que le parcours utilisateur par les collectivités soit le plus simple possible.
Merci beaucoup, Baptiste. Du coup, Clément, qu'est-ce que ça vous inspire pour Toulouse? Est-ce que vous pensez que ça répond à une demande des collectivités? Est-ce que ça va pouvoir permettre à Toulouse d'accélérer, en particulier sur le plan 100 000 arbres que vous évoquiez précédemment?
Oui, sûrement. C'est sûr qu'on a besoin d'une approche scientifique. Donc, les agences de l'État sont de toute façon très intéressantes. À Toulouse, on a aussi la chance d'avoir un microcosme de grande qualité. On a Météo France. On produit localement de nombreux documents intéressants aussi et complémentaires. Effectivement, alors vous m'aviez demandé de dire un mot sur le risque d'inondation, parce qu'effectivement les collectivités s'adaptent aussi. On avait des grandes crues, alors j'espère que ça n'aura rien à voir avec ce qui s'est produit à Valence, mais il y a 150 ans on avait eu quand même 200 morts et 1100 logements détruits. Donc toutes les collectivités, ou en tout cas les métropoles, ont ce devoir de faire de la prévention d'inondation. Ça commence par d'abord une bonne connaissance et des zones inondables par débordement, par ruissellement, et ensuite d'intégrer cette connaissance dans les documents d'urbanisme, de sensibiliser tous les acteurs du territoire, y compris les habitants, et puis après de faire les travaux qui s'imposent. L'eau, c'est aussi les agences de l'eau. Il y a un projet que je souhaiterais évoquer ici, c'est en partenariat avec l'agence de l'eau à Adour-Garonne, pour économiser l'eau, parce qu'on sait bien que la Garonne, malheureusement, ça, c'est difficile pour Toulouse. On est dans un contexte de sécheresse. Donc, il y a les inondations, il y a aussi la sécheresse pour nous. On a développé l'arrosage intelligent. Bon, je ne sais pas si le terme est bien choisi. Toujours est-il, ce sont des sondes que nous mettons dans certains de nos jardins historiques qui sont les plus arrosés, et dans les terrains de sport également, qui font remonter des informations d'humidité. Et en fonction de cela, l'arrosage, par exemple, s'il a plu la veille, le lendemain, on arrosera un petit peu moins ou pas du tout. Et là, l'expérimentation qui a commencé cette année nous montre que ça fonctionne et qu'on fait des économies d'eau, quelques dizaines de milliers de mètres cubes. Ça représente des volumes importants. Et grâce à cet argent économisé, on va pouvoir continuer l'équipement d'autres terrains sportifs et espaces verts. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Et puis, un autre exemple, c'est la tarification saisonnière qui est entrée en vigueur à Toulouse. Là aussi, pour ces sujets de manque d'eau à Toulouse, avec une tarification qui est un petit peu plus élevée en été, pendant 5 mois de l'année, et 7 mois de l'année, elle est moins élevée. Et en moyenne, pour un ménage classique, ça ne représente aucun surcoût sur les factures. Et donc voilà ce que nous faisons sur l'eau. Et tout à l'heure, on disait embarquer tout le monde. Un exemple avec le plan Toulouse avec le plan 100 000 arbres, excusez-moi, c'est que la mairie plante des arbres sur tout le foncier où elle a la maîtrise, dans nos cours d'école, dans nos places, dans nos rues, dans nos espaces verts, évidemment. Mais aussi, on souhaite que tout le monde puisse participer. Alors, les entreprises, j'ai cité tout à l'heure, mais aussi les associations qui souhaitent peut-être monter un projet sur le foncier de la ville, les habitants, parce qu'on fait du don d'arbres et des opérations collectives, et puis aussi les copropriétés, parce qu'on sait qu'à l'échelle d'une ville, c'est quand même un segment qu'il faut adresser. Il y a beaucoup de fonciers chez les copropriétés. On essaie de faciliter les choses en mettant un dispositif, une petite aide financière, et puis plus récemment un partenariat avec une maternité pour faire en sorte que les jeunes parents, eux aussi, aient l'opportunité de planter un arbre à l'occasion de la naissance de leur enfant.
Merci beaucoup. Peut-être Pierre-Yves Poulicane, une réaction en deux minutes sur ce plan des collectivités et comment ça peut finalement...
Moi, je donnerais un exemple de dire le contrat de Lille, où on a renouvelé notre rôle d'opérateur, de distributeur d'eau potable. Lille, contre-intuitivement, va manquer d'eau. Et elle nous a mis un engagement contractuel de déployer nos boîtes à solutions pour faire moins 10%. Donc nous, on a un engagement contractuel, c'est dans le tarif, sinon on est pénalisé. Et à nous de déployer l'ensemble de la panoplie des solutions disponibles par Veolia. L'efficacité sur les réseaux, l'éducation des citoyens. Enfin voilà, donc là c'est un très bon exemple de comment une ville utilise l'outil de son marché public, interpelle un opérateur privé qui a un savoir-faire. Voilà, et nous on dit toujours, notre directrice générale dit, il y a 50% des solutions qui existent déjà, déployons-les. Et il y a 50% des solutions qui sont à créer. Ça, c'est le rôle de nos départements R&D et autres. Mais commençons déjà par déployer ce qu'on sait faire. Et je pense qu'on a... voilà, il y a une boîte à outils énorme qui existe. Je parlais du reuse tout à l'heure, le dessalement. Enfin, il y a quand même énormément d'intelligence qui a été développée par les opérateurs privés, par les collectivités, ça a été rappelé. Et donc, moi, je pense qu'on a... voilà, il y a une prise de conscience collective à pousser. Mais les moyens et les sont là. Les solutions sont là. Hein.
Merci beaucoup. Isabelle Spiegel, peut-être votre réaction sur ce qu'on a vu. Et peut-être en particulier un point, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement d'adaptation sous l'angle infrastructure risque, mais il n'y a peut-être pas que ça dans la distinction entre adaptation et résilience.
Oui, mais j'ai envie de dire, et c'est vrai que nous-mêmes, on a renommé notre groupe de travail qui s'appelait initialement depuis 2017, résilience climatique en adaptation. Pour se dire, finalement, la résilience, c'est l'état qu'il faut atteindre. Et dedans, il y a d'ailleurs une partie de résistance, de résilience, etc. Et l'adaptation, c'est le chemin qu'on va ensemble parcourir pour atteindre le plus possible cet état de résilience. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a un petit peu formulé. Moi, j'aime bien quand on reprend les éléments un petit peu de hauteur par rapport au contexte global. Et Diane a rappelé, hein, 10% du PIB perdu à horizon 2100. On a un certain nombre de rapports qui nous disent quand même que le coût de l'action maintenant est beaucoup moins important que le coût de l'inaction, c'est-à-dire le coût futur des dommages. Et donc, on a cette vraie équation économique qui est pas du tout facile à combler. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il faut investir là maintenant et réfléchir court terme. Ne pas se tromper avec des mauvaises solutions de maladaptation et donc les réfléchir quand même suffisamment sur le long terme. Tout ça pour éviter des coûts de dommages qu'on ne sait pas très bien estimer ou pas de façon hyper précise. Donc c'est quand même ça en fait notre problème économique avec des entreprises qui, enfin je pense que là autour de la table, et des collectivités hein, d'ailleurs qui se bougent, c'est-à-dire qui sont dans l'action et qui disent voilà, déjà là aujourd'hui à court terme, il y a une partie des technos, des solutions, etc. qui sont entre nos mains, donc je les mets en œuvre. Tout simplement. Je pense qu'on a besoin de collaboration et donc l'intérêt du PNAC, c'est qu'il nous dit déjà la trajectoire 4 degrés, on l'acte, elle est là. Et donc évitons de se poser trop de questions sur la méthodologie, puisqu'aujourd'hui, ça, on peut le mettre en commun. Donc avec tous les acteurs qu'on a cités, hein, CEREMA en tête, mais il y en a bien d'autres. Et donc public-privé, et alors ça, c'est exactement ce qu'on adore. C'est-à-dire que ce n'est pas le rôle d'une entreprise privée de décider de la méthodo d'évaluation des risques. Donc c'est génial. Et j'étais la semaine dernière avec des assureurs où on dit exactement la même chose. C'est en fait, vous avez, côté assureur, des modèles d'évaluation des risques. Bah, OK, partagez-les, et ils sont prêts à le faire, pour que tous ensemble, on se mette d'accord sur la méthodologie d'évaluation. Ce qu'il faudra, c'est la pousser aussi à l'échelle à minima européenne, voire un peu plus, pour que on ait des bases communes là-dessus. Mais ensuite, de la même manière, une fois qu'on est à peu près d'accord sur l'ensemble de l'évaluation des risques, des enjeux et de leur incertitude, parce qu'elles sont présentes et on peut l'acter, hein, en économie aussi, quand on prend un marché, quand on fait son chiffrage, on a une part d'incertitude en fait. Donc on est capable de l'intégrer dans le fonctionnement, en tout cas des organisations. Derrière, c'est sur l'aspect collaborons aussi sur ces modèles économiques, puisqu'effectivement c'est pas du tout évident. Donc, et là, on a des petites bribes de début de modèle économique. Hein, ce qui a été fait à Toulouse avec la tarification sur l'eau est vraiment un pas dans le bon sens. Le fait de se dire, les assureurs, peut-être qu'il y a des zones qui seront plus assurées ou qui seront assurées plus chères, etc. Ça nous donne aussi des billes d'économie, c'est-à-dire que se dire peut-être qu'un meilleur dimensionnement, une meilleure adaptation dès le départ de telle et telle solution sera plus facilement assurable, en tout cas. Par contre, on a beau sommet, on n'est pas du tout encore au bout du chemin. Et je pense qu'un des moyens d'avancer, c'est de faire des démonstrateurs. Donc de la même manière que techniquement, on sait bouger sur un certain nombre de choses, il faudrait prendre les sujets les uns après les autres, je dirais, mais à minima, passer à l'action ensemble dans une approche globale qui est tellement nécessaire. Et c'est vrai peut-être que le PNAC aborde le rôle des entreprises, on en avait parlé en plus ensemble il y a quelques temps, de façon, enfin, comme un acteur qui doit lui aussi faire son travail sur les risques, il peut aller beaucoup plus loin et contribuer en fait à ce type de réflexion. Enfin, je pense comme on le montre ici, hein, avec un certain nombre d'acteurs privés en fait qui se sont posés aussi des questions et qui sont aujourd'hui prêts à les partager dans ces réflexions et dans les futurs démonstrateurs à développer sur le territoire pour nous permettre aussi d'accélérer.
Merci beaucoup Isabelle. Alors effectivement, vous avez parlé de financement, vous avez parlé de solutions. Bon, c'est l'objet des deux tables rondes qui vont suivre, donc restez avec nous. Peut-être Diane, pour finir ce deuxième tour de table, bah, revenir sur les prochaines étapes du PNAC, ce que au niveau de la DGEC, vous vous retenez pour cette table ronde et quelles sont les actions des entreprises françaises en matière. Je vous ai vu beaucoup hocher la tête et manifester votre enthousiasme, donc partagez-le nous.
Merci. Alors la prochaine étape, c'est la concertation. Donc elle dure jusqu'au 27 décembre. Vous avez la possibilité de répondre à un questionnaire en ligne et de déposer des cahiers d'acteurs. Et j'insiste sur le fait que c'est une vraie concertation. L'administration est parfois accusée de mettre des documents à la consultation juste pour la forme. Là, c'est d'autant plus vrai qu'en plus, ce document, il a été arrêté il y a un certain temps, Jean-Baptiste l'a dit, et pour des raisons politiques, il n'a pas pu être publié jusqu'à récemment. Il s'est passé un certain nombre de choses depuis, donc il va pas mal évoluer d'ici sa version finale. Donc on est vraiment extrêmement preneurs de vos contributions, et donc on se réjouit d'avoir celle du comité 21, de Vinci, d'autres aussi. C'est vraiment essentiel. Ça, c'est le premier point. Et puis par ailleurs, on a des consultations sectorielles. Donc en plus de l'avis du Conseil national de la transition écologique, on a des consultations sectorielles, notamment Conseil national de l'industrie, Conseil supérieur de la construction, de l'efficacité énergétique et puis d'autres encore. Et puis ensuite, il y aura la mise en œuvre et on aura vraiment besoin des entreprises. C'est des choses extrêmement concrètes. Par exemple, avec la FNOR, là, on travaille à mettre à jour toutes les normes. C'est un énorme chantier de mettre à jour toutes les normes. Mais c'est en fait, c'est là qu'on a vraiment l'impact concret. On a par exemple besoin que les entreprises s'impliquent dans ces travaux de mise à jour des normes. Et puis Isabelle le disait, enfin, il n'y a pas que l'approche risque, il y a vraiment l'approche opportunité, d'autant plus qu'on a des entreprises en France qui sont leaders sur les sujets. Et on voit qu'il y a un levier très important avec notamment la commande publique. La commande publique, c'est 8% du PIB et c'est un levier essentiel. Et là, on sait qu'il faut qu'on ait une prise en compte de l'adaptation dans toute la commande publique. Donc, par exemple, on sait que quand on construit un bâtiment, si on prend en compte correctement l'adaptation, c'est 5% de coûts en plus. C'est beaucoup moins que d'agir après pour corriger. Quand on prévoit une rénovation lourde d'un bâtiment, la prise en compte de l'adaptation, comme ce sera systématiquement le cas sur toutes les rénovations d'ampleur qui vont être financées par l'ANA, c'est 10% en plus. Il faut le prendre en compte dès le départ, mais ce sera toujours beaucoup moins cher que de faire indépendamment. Et on a besoin que les entreprises soient vraiment force de proposition quand sur tous les marchés publics, toutes les concessions, pour proposer des choses, proposer des variantes, proposer des alternatives. On voit qu'il y a des grandes collectivités comme Toulouse, comme Lille, qui sont vraiment équipées, qui vont faire ce travail d'ingénierie, qui vont demander des choses. Nous, on va faire notre travail pour essayer d'avoir des clauses types, travailler à des clausiers pour aider les collectivités à s'emparer de ce sujet-là. Mais il faut vraiment que les entreprises soient force de proposition pour proposer des alternatives qui prennent systématiquement en cours le climat futur.
Merci beaucoup Diane. Il nous reste 4 minutes. Pour conclure, je vais demander à chacun d'entre vous de nous faire en un mot, enfin pas littéralement, mais très succinctement en tout cas, votre proposition pour accélérer. Clément.
pour accélérer et pour donner envie. Moi, je pensais au cours d'école Oasis, mais il y aurait d'autres choses sans doute. Donc, vous savez, c'est ces cours d'école où il y a plus d'arbres, il y a moins de bitume, il y a plus de copeaux de bois. Les enfants jouent sur des jeux de motricité et autres. Et il y a toujours un terrain de sport quand même, hein, mais les enfants sont plus apaisés quand ils rentrent en cours. Ils apprennent mieux. Et donc, finalement, il y a vraiment un grand bénéfice et c'est très apprécié. On en fait un certain nombre à Toulouse et je pense un peu partout en France, c'est le cas aussi. Et donc finalement, au travers de l'adaptation, il y a aussi des projets qui voient le jour, des réalisations qui nous apportent des bénéfices. Et c'est peut-être ça aussi une opportunité pour pouvoir faire envie au grand public.
Merci Pierre-Yves.
Je dirais, soyons cohérents, on a lancé un plan eau il y a 2 ans où il y a des mesures d'adaptation dedans, allons jusqu'au bout, enfin faisons des... J'ai donné l'exemple du contrat de Lille, il y a Toulouse qui a réfléchi. Je pense que les grandes collectivités ont un rôle important d'exemplarité et qu'il faut qu'on fasse... on a la parole publique maintenant, le discours politique qui est là. Il faut le faire partager à toutes les strates de la société et ce fameux millefeuille territorial que nous avons, il va falloir qu'il prenne ce sujet et il faut qu'on en parle à tous les niveaux. Merci pour ce colloque, mais il faut qu'on en parle à tous les niveaux de l'administration des territoires et autres. C'est un combat qui est celui d'une génération et il va falloir le mener.
Merci Baptiste.
Je dirais formation, montée en compétences. Alors c'est pas très sexy, hein, mais c'est la clé hein, si on veut créer ce réflexe d'adaptation. Et un grand merci au comité 21 hein, qui participe largement de cette montée en compétences collective.
Diane.
Moi, je suis embêtée parce que Baptiste m'a piqué mon mot, mais moi aussi, c'était le réflexe adaptation. C'est qu'il faut plus qu'il y ait une décision, quelle qu'elle soit, qui soit prise sans prendre en compte le climat futur.
Et Isabelle ?
Je vais faire consensuel de l'action. Non, mais je pense que les priorités, elles sont données. Et ce PNAC, il les remet quand même bien au centre de la table. Et sujet par sujet, hein, c'est-à-dire quasiment secteur par secteur, sujet par sujet. Donc, c'est déjà suffisamment complexe. Prenons-le tel qu'il est. Et puis juste, on déroule et on agit collectivement.
Bien, merci Isabelle. Merci à tous. Merci à toutes pour votre intervention. Et on continue avec donc une table ronde sur l'adaptation, somme de solutions techniques ou vision sociétale.